Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma de Jean-Max. Bonjour Jean-Max.
Bonjour Sylviane.
Notre éminent spécialiste et cinéphile Jean-Max Méjean, toujours présent au moment juillet avec la canicule. Il paraît qu'il y a beaucoup de fréquentation dans les salles de cinéma puisque c'est climatisé.
Puis en plus, il y avait eu la fête du cinéma.
Et en plus, il y avait eu la fête du cinéma.
Donc les gens, pour 5 euros, avaient un beau film. Et puis j'ai entendu dire qu'il y a des cinémas à Paris qui...
Gratuits.
Ouais, gratuits, oui, à une certaine heure, évidemment.
Pour que les gens résistent à cette canicule. Alors, nous, on va faire très chaud dans cette émission, puisque vous avez choisi comme sujet en juillet, on se demande pourquoi, la Révolution française.
Mais oui, on se demande bien pourquoi, quelle drôle d'idée, parce que le 14 juillet, je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Oh, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne savent plus. Hein.
Ah bon, ben, donc c'est la fête nationale.
Le bal des pompiers, peut-être qu'ils connaissent.
Le bal des pompiers, oui. J'ai acheté un ticket à la Tombola à Paris, j'ai gagné une couverture de survie.
Ah, ben écoutez,
ça pourra me servir.
Pour mettre sous vos Velux, là, pour avoir
voilà,
moins chaud.
Un peu moins chaud.
Parce qu'il paraît que cette canicule va durer. Donc, allez au cinéma. Alors, les films sur la Révolution, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on aime beaucoup.
Il y en a beaucoup qu'on aime beaucoup. Il y en a encore plus que ce qu'on a marqué, qu'on a cherché. Mais bon, on s'est contenté de surtout parler de ceux qu'on aime bien,
bien sûr.
De ceux qui sont incontournables, on va dire.
Et alors, pour nous mettre dans l'ambiance, c'est indispensable d'écouter, bien sûr, Édith Piaf hein, dans le « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira ». Accroché, ça m'avait beaucoup
Guitté.
Marqué, accroché à ces grilles
de Versailles.
Bah,
oui, parce que quand sont arrivés les poissonnières, tous les gens qui voulaient que le roi disparaisse, et donc, c'est le film de Sacha Guitry, « Si Versailles m'était compté ».
Dont on ne parlera pas. Donc, ça ira, et ensuite, on parle des films qu'on a aimés.
Et qu'ils entretiennent des cadins. La Troie sans enfants nous écrase. Assez de manches, changer de phrase. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Les arrives battent à la lanterne. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Les arrives battent, on les fendra. Au son des fibres et des tambours, en nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La Troie sans ans qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, les
Alors, Jean-Marc, est-ce qu'on le fait dans l'ordre chronologique? Est-ce qu'on le fait dans l'ordre d'amour du film? Vous les avez notés d'un point de vue chronologique?
Moi, je commencerai bien quand même par La Marseillaise de Jean Renoir,
oui.
1938, qui est quand même un incontournable, qui a été financé par la CGT, et Jean Renoir étant de gauche, tout le monde le sait, donc... Je trouve que, d'abord, Jean Renoir, c'est un de nos plus grands cinéastes. Et puis, en plus, c'est un film qui est, comment dire, une déclaration d'amour à la Révolution. Je ne sais pas, c'est vrai, tout à l'heure, vous disiez que les gens, et peut-être ils se souviennent même plus que c'est que le 14 juillet, à part une journée fériée, mais c'est quand même, le 14 juillet 1789, c'est le début du changement complet, on est passé de l'ancien régime à ce moment-là, on ne savait pas à quoi. Mais enfin, c'est un changement. Parce c'est que le roi, on ne lui a pas coupé la tête
tout de
le
suite.
14 juillet. Je crois qu'il y a des gens qui croient ça, mais non.
Non, mais c'est pour cela, d'ailleurs, que lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, beaucoup de personnes, beaucoup d'historiens avaient préféré le fêter en 1992.
Voilà, oui.
Parce que c'est là où on avait vraiment institué la République.
Mais en même temps, la prise de la Bastille...
C'est un point de départ.
Voilà.
Donc, mais en 89 avait eu un film très pédagogique, La Révolution française, de Robert Enrico, en deux parties.
Voilà, moi je l'ai fait beaucoup avec mes élèves.
Moi aussi.
Ben voilà, parce qu'en fait, c'est un très beau film. Bon, comme vous disiez, c'est pédagogique, mais en même temps, justement, moi j'ai rien contre la pédagogie quand elle est bien
faite. C'était très vrai, véridique,
c'était magistralement interprété. Filmé académiquement, mais sans fausse note.
Et je trouve que les acteurs choisis n'étaient pas caricaturaux, parce qu'on voit toujours un Robespierre très guindé et un Danton vraiment épicurien. Là, je trouve que c'était très...
Oui, c'est vrai.
C'était très nuancé, un beau Camille Desmoulins. Enfin, moi, j'ai souvenir vraiment de ce film.
Et en plus, avec de l'émotion. Et sans parti pris, enfin, ce n'était pas un film non plus larmoyant, ce n'était pas un film, ils n'avaient pas fait comme une sitcom, mais ça avait beaucoup d'impact sur les élèves, j'ai trouvé, pour bien comprendre ce changement complet de régime, quoi, en fait. Hein.
Alors que, je vois, vous avez noté Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapeneau en 71, bon, ce n'était pas du tout la même chose.
Non, ce n'est pas du tout, mais il ne faut pas non plus le...
Ah, mais je ne le dévalorise pas, non.
Parce qu'il y avait Belmondo, d'ailleurs. Lui, Rapeneau, c'est toujours un brillant directeur d'acteur. Il y a toujours plein de péripéties, de... Voilà, c'est enlevé, voilà. Ce sont des films enlevés et qui permettent de se faire une idée aussi de la vie à cette époque-là.
C'est vrai que les costumes sont toujours très bien représentés. Ça, les lieux de tournage, c'est vrai qu'on ne parle pas assez des lieux de tournage. Moi, j'aime bien à la fin des films voir toujours où ça a été filmé.
Oui, oui.
Parce que... on cherche à reconnaître, ah ben là, c'était là ou là, et c'est pas du tout où on pensait.
Exactement. Et alors maintenant, c'est beaucoup plus facile, puisque les régions sont souvent coproductrices, donc avec le soutien de la région 2. Donc du coup, on se prend moins la tête pour savoir. Mmh. Alors notre chouchou à tous les deux, c'est...
La nuit de Varennes.
Voilà, des Torrescola avec Marcello Mastroianni dans le rôle de Casanova. Alors là, je crois qu'on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre.
Alors évidemment, ça, le titre l'indique, ça raconte
la fuite
à Varennes du roi Louis XVI, sa femme et les enfants et une partie de la cour, peut-être pas toute la cour. Voilà. Hein. Mais c'est très bien vu parce que...
Oui, le décalage entre la vraie vie du monde paysan et puis ces personnes qui...
Quand ils arrivent dans le café aussi, mais c'est vraiment... On s'y croirait.
Et l'anecdote, moi, que je raconte souvent, et que les gens disent, c'est pas possible, qu'en fait, on l'avait reconnu grâce à la pièce, à son profil.
Oui, voilà,
avec
le profil sur la pièce.
Parce que c'est vrai, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien du tout.
À l'époque, oui. Puis les gens du peuple n'avaient pas de tableau chez eux, évidemment. Un tableau, c'était trop cher. Donc, ils l'ont reconnu grâce à son profil de médaille, comme on dit.
Oui, oui. Et c'est véridique. Alors, vous dites là, on a un chouchou commun, La Nuit de Varennes. Est-ce que le Danton d'André Jaïda aussi
j'adore. Avec Gérard Depardieu. Il est Gérard Depardieu, je crois qu'il est au sommet de son art, là.
Ouais.
Parce qu'il arrive à être Danton. Ce révolutionnaire qui va avoir, pendant la terreur, la tête tranchée, quoi.
Ouais.
Moi, je ne sais pas, quand j'étais enfant ou adolescent, je ne comprenais pas que la Révolution française soit arrivée...
horreurs.
Voilà, à la terreur. Parce que c'est pour ça qu'il faut se méfier. Non, chaque fois, on veut toujours se venger des dirigeants, parce que la plupart du temps, on les hait, ils nous méprisent, ils nous volent notre argent, etc. Mais le problème, c'est dès qu'on en... C'est pour ça qu'il faut... faut pas trop jouer avec le peuple non plus. Parce que dès que... Voilà, maintenant, je trouve... Je ne sais pas si ça se referait comme ça, la Révolution française, je ne sais pas.
Ben là, il y avait vraiment une telle misère. Bon, vous pourriez me dire, me répondre, il y a une telle misère actuellement.
Mais il y en a une aussi, elle est différente. Ouais.
Et puis, il y avait là la famine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la Révolution française, c'est la famine. Hein. Il y avait vraiment rien à manger. Hein.
Non, et puis aussi les bourgeois qui voulaient prendre le pouvoir.
Et oui.
Mais ils s'en sont servis pour renverser la monarchie et instaurer un régime qui leur était beaucoup, beaucoup plus favorable. Ça,
pour
il ne faut pas non plus l'oublier.
Pour après se
rallier
à Napoléon et prendre des particules
voilà,
et vivre.
Voilà, et recommencer. Et puis c'est maintenant, quand on voit comment fonctionne l'Élysée, on se dit que finalement, puisque Macron organise des fêtes au château de Versailles, on ne voit pas trop la différence. Hein.
Ouais. Alors, donc révolution, mais des révolutions à toutes les époques, puisque là, on parle un peu de notre époque. Et vous vous souvenez
de Chouan, non?
Non, j'allais parler de notre pause musicale avec, après Édith Piaf, on a choisi Serge Gainsbourg.
Ah oui, oui, oui.
Combien ça a fait couler d'encre cette Marseillaise.
Ah, oui. Ah, oui.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que ça révolutionnait, en fait.
C'est le cas de le dire, oui.
Non, comment vous avez réagi à la Marseillaise de Gainsbourg?
Bah, c'est-à-dire, il faut le replacer aussi, c'est les années 80, c'était la mode du reggae.
Ouais.
Que maintenant, bon, il y a très peu de gens, à part quelques Rastafari, qui, à l'époque, tout le monde écoutait du reggae. Et on a dit que, moi, je n'ai pas trouvé, parce qu'en plus, il était très ami avec la Légion étrangère, enfin, il flirtait beaucoup avec les extrêmes, hein, c'était un provocateur, Serge Gainsbourg, mais il n'y avait quand même pas de quoi voilà.
Fouetter un chat. Comme on dit.
Voilà. Ni
mais
fouetter
bon,
un chat, ni...
Moi, mais... ça me plaît qu'on l'écoute parce que
oui, bah,
c'est une façon aussi de désacraliser.
Non,
peut-être.
Mais je pensais pas que vous vouliez parler d'une musique.
Et puis, il y a des polémiques aussi sur cette fameuse phrase très, très violente dans la Marseillaise. Il y en a qui veulent changer les paroles, bon, etc., etc. Là, on parle cinéma, on ne va pas polémiquer. Donc, on écoute un peu de Gainsbourg. Sur Radio Alliance Plus, avec Jean-Marc Méjean, nous parlons de la Révolution française au cinéma. On a déjà évoqué plusieurs films. Et vous pensiez, avant Gainsbourg, que j'allais parler des Chouans.
Voilà,
de
parce
Philippe
que vous,
de
vous aviez dit d'autres époques. Alors effectivement, les Chouans, c'est encore autre chose. Hein. C'est une révolution, enfin une révolution, une révolte, mais de la Vendée, c'est-à-dire la France traditionnelle,
bretonne, catholique, vendéenne, pardon.
Et comment dirais-je, paysanne aussi. Paysanne qui se révolte contre le pouvoir royal, en fait.
Et où il y a une répression absolument terrible. Et ce n'est pas du tout comparable au Marié de l'an 2, mais je trouve qu'il y a ce côté épique hein, dans les
Chouans. C'est Philippe de Broca, tout à l'heure c'était Jean-Paul Rappeneau, mais donc Philippe de Broca, c'est un film de 1988 qui était aussi un spécialiste de ces films, on dit en costume, avec beaucoup de mise en scène, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'action. C'est... Ben, je ne sais pas, moi je le recommanderais à des élèves, par exemple, s'ils veulent se faire une idée plus précise de ce que c'est que la chouannerie.
Ouais. Oh, je sais que j'avais été très, très marquée quand j'avais été visiter les mémoriaux chouans. Vous voyez vraiment des plaques de gens qui ont été exécutés et vous voyez des familles avec les âges à côté. Il y avait des bébés, il y avait vraiment... Ça m'avait vraiment impressionné.
Ça fait penser un petit peu... des exterminations comme la Shoah.
Ouais,
quand,
ouais.
quand on va à Paris au mémorial, c'est,
oui, oui, cette liste,
ça glace le sang.
Il ne faut pas oublier que la Révolution française, c'est quelque chose de très violent, avec
très violent, de
terreur. Alors moi, j'allais parler au contraire au niveau de la terreur. Il y a un autre aspect de la Révolution française qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est un peu la personnalité de Marie-Antoinette.
Hein. Oui, voilà.
Et le Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2006.
Mon film préféré, celui-ci.
M'a un peu déstabilisé, moi, mais m'a beaucoup intéressé tout de même.
Et vous a déstabilisé, pourquoi ? Parce qu'elle a l'air de...
Bon, elle a l'air toute mignonne.
Voilà,
toute...
c'est ça, de dédouaner un petit peu, parce qu'en fait, il faut dire, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Quand même, au moment de la Révolution, ça a été précédé par... Il y avait donc l'affaire du collier.
Du collier de la Reine.
Et il y avait également... Bon, la fuite à Varennes, mais il y avait bien avant... Toutes les satires sur Marie-Antoinette étaient détestées. Ouais. Elle était détestée. Bon, là, elle est présentée un peu comme une viveuse, un petit peu...
Les parties de cartes.
Voilà, les parties
les bonbons,
de cartes, les soirées,
sucreries.
Les sucreries, les escarpins loup-boutin, parce qu'il y a plein d'anachronismes dans le film qui sont évidemment voulus.
Ouais.
Il y a les petits macarons, la durée. Voilà. Alors, moi...
Seriez-vous gourmand ?
Oui, un peu, oui. Non, mais en même temps, ça allait bien avec le film parce que...
Oui,
ça avait...
moi, j'ai pas dit que je n'ai pas aimé, mais j'étais un petit peu surprise parce que moi, Marie-Antoinette, elle est un peu un bouc émissaire et puis je vois cette femme très jeune quand elle est dans le chariot pour aller à la guillotine après ses mois de captivité. Et puis je vois toujours, je ne sais plus dans quel film c'est, quand elle quitte l'Autriche, on la déshabille complètement, il faut qu'elle n'ait plus rien d'autrichien. Elle arrive, elle ne parle pas français, elle ne connaît pas son futur mari. Je me dis, mais quel choc, quel traumatisme. Et moi, je vois ce côté humain. Et notre Marie-Antoinette, là, de Sofia Coppola, elle a l'air d'avoir bien...
Oui, elle...
Bien récupérée, quoi.
Oui, elle a un côté un peu... les viveuses des années 90, vous savez, qui se rendaient dans les nightclubs, qui participaient à des soirées, parce qu'il y a une soirée d'ailleurs, il y a plein d'anachronismes, il y a des soirées où on entend de la musique de cette époque-là.
Alors, il y a un film que vous avez noté, Jean-Marc, je vais avouer que
Un peuple et son roi.
Ouais, je connais pas du tout.
Alors,
de Pierre Scholler, 2018.
Oui, alors là, c'est beaucoup plus sérieux. On n'est pas dans la faribole, un petit peu comme avec Sofia Coppola. Mais elle ne veut pas dédouaner Marie-Antoinette. Hein. Elle donne son interprétation de la vie à la cour. Non, là, Un peuple et son roi, c'est beaucoup plus sérieux. C'est la relation qu'entretient le peuple français vis-à-vis de son roi. Et c'est comme un parricide, en fait, quand on coupe la tête à ce père. C'est un mauvais père. C'est un mauvais père, oui. C'est un père dominateur. Hein. Alors après, ça, c'est plutôt sur le plan psychanalytique. Pourquoi aller jusqu'à couper la tête de son roi ? C'est quand même assez... Je sais bien que la guillotine avait été inventée.
Il y a eu un antécédent en Angleterre. Hein, donc
oui, c'est vrai.
Il avait été décapité.
Alors, la guillotine, on ne l'a pas inventée pour aller couper la tête des princes, des rois et autres.
Est-ce que c'était vraiment nécessaire, en fait ? C'est ça qu'on peut se poser comme question.
Alors, je ne sais pas.
En fait, ça a permis l'alliance de tous les pays. Hein. Si on n'avait pas coupé la tête de Louis XVI... Peut-être qu'il n'y aurait pas eu toute cette alliance contre la France.
Oui, mais ils avaient certainement peur que le roi, avec les alliances qu'il avait, parce que c'est pour ça que les rois se mariaient entre familles, d'autres... ils avaient peur que ce qui s'est passé avec la fuite à Varennes, que ça recommence, qu'ils veuillent remonter sur le trône. Là, c'était une façon, tac, de couper complètement. Et sinon, il y a les adieux à la reine.
Oui, j'allais dire, on n'en a pas parlé. Ah, c'est beau.
Ah, c'est magnifique, voilà. Ah, elle ne peut pas dire autre chose. Parce
2012,
que...
oui. Mais il y a beaucoup d'autres films, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que chaque réalisateur a son point de vue, a sa façon de... peut-être qu'on va faire un film dans un mode... Vous savez, comme les opéras qui se passent dans des époques contemporaines, dans des décors contemporains, une révolution française...
Ça n'a pas déjà été fait, non ?
Peut-être. Donc on est
C'est-à-dire la mettre dans des...
Dans une autre époque.
Oui, mais justement... Je ne sais pas si ça se passerait de la même façon.
Ouais, oui, mais c'est toujours intéressant. Et puis le cinéma, il est toujours là pour nous faire réfléchir. Alors, nous avons consacré une grande partie de cette émission à la Révolution française au cinéma.
Noblesse oblige. Hein.
Vous allez nous parler des sorties, bien sûr, de juillet. Et puis d'autres chouchous. Et vous avez choisi une musique. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi Histoire d'amour de Dalida.
Alors, parce qu'il y a un film qui sort en juillet, qui sort à la fin du mois de juillet, qui s'appelle Les Matins Merveilleux, qui a été présenté hors compétition à Cannes. Et c'est ce genre de film, comment on pourrait dire, feel good movie, vous savez, ces films où on se sent bien, en fait. Bon, c'est une histoire qui... Une jeune fille qui découvre à la mort de sa grand-mère qu'elle avait de nombreux disques, 33 tours et 45 tours. Et mystérieusement, la grand-mère lui a dit « Apporte-les à un certain monsieur qui habite sur la Côte d'Azur. » Donc cette fille qui avait une vie tout à fait étriquée, je ne raconte plus. Elle part dans le midi de la France et sa vie va changer. Voilà, et le film est... ponctué, c'est un genre un peu comme tous les... Chaque année à Cannes, il y en a un qui sort comme ça. Hein. Il y avait eu Annette, par exemple, hein, de Léos Carax. Un genre de comédie musicale. Et c'est India Air que j'ai découverte.
Oh, c'est une très bonne actrice.
Excellente actrice, mais là, dans la comédie, elle est encore plus excellente. Et Eric Cantona, qui joue le rôle de cette amie de sa mamie, qu'elle doit retrouver. Et elle chante... à un karaoké, d'ailleurs, j'espère qu'on va en sortir un disque. Elle chante « Mon ami la rose » de Françoise Hardy. Mais je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi une autre chanson qu'on entend dans le film et qui donne justement le titre, hein, puisque le film s'appelle « Les matins merveilleux » et c'est des mots qu'on entendra chez...
Dalida.
Voilà, merci.
Tout ça, c'est très réfléchi.
Donc, on l'écoute.
On l'écoute.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux.
Alors nous avons parlé de ce chouchou Les Matins Merveilleux en sortie de juillet. Il y a également alors, l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors, je vais vous dire carrément, j'ai vu la bande-annonce, j'irai pas le voir.
Bon, moi, je l'ai vu. Mais moi, alors, vous voyez, bon, est-ce que je peux me permettre de donner mon avis un petit peu?
Mais bien sûr.
Je trouve que c'est trop sombre. Hein. Sombre, je parle sur l'étalonnage. Hein.
Oui.
Moi, en fait, bon, peut-être l'Iliade, je la verrai dans les sombres, mais l'Odyssée, pour moi, c'est assez solaire.
Lumineux,
parce que,
oui.
Mais oui, c'est le chemin d'un homme pour retrouver sa femme. C'est quand même merveilleux comme histoire.
Donc
alors, ça se passe
ça
souvent dans des cavernes, dans des sous-sols, dans la nuit avec des torches, je ne sais pas.
Ah, mais moi, j'ai eu l'impression de voir un blockbuster, vous voyez, avec des super-héros, enfin les extraits.
Bon, Christopher Nolan, c'est toujours un peu comme ça quand même. Hein. C'est quand même pas, c'est un peu ploum-ploum. Hein.
Enfin, chacun peut décider d'aller le voir, hein. Je ne critiquerai pas. Par contre, le film de la Comédie Française, alors là, je vais me précipiter.
Oui, mais ben ça, c'est très, très.
Il passait hier dans l'émission C'est à vous, que j'apprécie pas spécialement, mais il y avait. Stoker, je ne sais plus son prénom brusquement. Il y avait trois acteurs et Marina Hans, je ne sais plus son prénom alors que j'adore cet acteur, Stoker. Et c'était vraiment extraordinaire de les entendre parler. Et puis moi, je vais régulièrement au cinéma Pathé ou Kinépolis Nîmes pour voir les retransmissions de la Comédie Française.
Eh ben oui,
là, j'ai vu un Cid magnifique.
Il y avait des femmes savantes qui étaient formidables.
Ah, ben j'ai moins aimé.
Ah, moi j'avais adoré.
J'ai vu Hamlet, alors là, un choc absolument extraordinaire. Donc ce film de la Comédie Française, ils sont tous là.
Alors il y a le passage aussi qui est très drôle, qui est quand il y a une actrice un peu en retard, la pièce va commencer, elle oublie son badge. Et celui qui est à l'entrée, il ne peut pas la laisser passer parce qu'il n'a pas son badge. En lui disant, bon voilà, c'est très comique. Voilà, moi, ça m'avait fait penser... En plus drôle quand même.
Ah, vous l'avez déjà vu, moi j'ai vu que la bande-annonce.
Il m'a fait penser un petit peu au film de Christophe Honoré qu'il avait fait justement pendant le Covid sur justement la comédie française. Et en fait, c'est vrai, c'est bien maintenant que la comédie française soit un peu...
Plus accessible.
Dépoussiérée. Voilà. Moi, j'aime pas trop dépoussiérée parce qu'elle n'était pas poussiéreuse. Mais qu'on la mette un petit peu... accessible à tout le monde. Voilà, que ce ne soit pas le temple secret pour les initiés, les adeptes, vous voyez.
Mais enfin, ce sont des acteurs. Ce qui reste tout de même, ce sont les acteurs. C'est le jeu. En plus, au cinéma, vous voyez vraiment des gros plans et vous voyez combien ils sont vraiment...
Ils sont d'un talent...
Un talent vraiment extraordinaire. Alors, il y a une autre sortie que vous avez citée. Alors, je ne vois pas du tout ce que c'est.
Justement, je le conseille pas quand même à tout le monde. Parce que, alors, vous avez déjà vu des films de Greg Akari?
Ben non.
Pardon, je me suis encore trompé. C'est Greg Araki. Ça fait penser un petit peu au Raki turc. Alors, en fait, c'est un provocateur, lui, un réalisateur américain provocateur. Il n'avait pas fait de film depuis 14 ans. Et là, I Want to Sex, il fait de façon, complètement déjantée, mais aussi... on va pas dire pornographique, mais très osé quand même, de les 11 nuances de Grey, vous savez. Sur les rapports sado-maso entre une maîtresse, on paraît qu'on appelle ça une maîtresse, la femme qui domine les hommes, et qui est une grande star. Alors, c'est un genre de Madonna. Et voilà, et pendant 1h40, vous allez voir ces relations. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Mais c'est très, très... Au niveau des images et tout, c'est très anti-warholien, vous voyez. Au niveau de la mise en scène, c'est... Mais il y a quand même des scènes pour un public averti.
Averti.
Voilà.
Alors, on va finir par autre chouchou. C'est notre histoire, Chronique du Caire, par A.B. Chowki.
On peut en parler tout de suite de ce film. Alors ça, c'est un film égyptien qui nous ramène vers l'époque du cinéma égyptien, Youssef Chahine, tous ces grands du cinéma. Vous savez que c'était le plus grand cinéma du monde, le cinéma égyptien, qui a un peu perdu. Et là, alors là, franchement, c'est la grosse surprise. Donc, il est sorti le 1er juillet, donc je vous le recommande. C'est un film...
À voir
et qui est une épopée, l'épopée d'une famille. C'est un genre d'Amarcord.
D'accord. Ben merci à vous, Jean-Max, pour ce mois de juillet. S'il continue de faire très chaud, nous allons hanter les salles de cinéma climatisées. Et on se retrouve pour le mois d'août.
Merci et bonnes vacances.
Merci.